On va continuer notre étude sur glorifier Dieu dans votre corps. Alors, on va commencer ce soir à regarder les 8 séries de versets de la Bible qui concernent nos devoirs envers nos corps. Alors, juste pour revenir un petit peu avec les leçons précédentes, on avait dit que pour avoir une bonne théologie, une bonne façon de comprendre ce que Dieu nous commande par rapport à nos corps, il faut avoir une bonne théologie de base. Et la bonne théologie de base, c'était les 7 brins. Les 7 brins qui étaient les 7 principes sur lesquels on se doit de placer les groupes de versets qui, eux, sont les commandements que Dieu nous donne par rapport aux soins qu'on se doit de donner au corps. Alors, on va juste les réviser rapidement pour que ça fasse comme une image qui reste dans nos esprits. Alors, la corde à 7 brins, c'était... La corde qui tient les perles sont interlacées l'une avec l'autre, ça fait la solidité. Donc, c'est le cadre biblique, le cadre théologique. Notre théologie biblique est basée sur ces 7 principes-là. Ensuite, on prend les versets, on les met sur ce cordon-là, et là, c'est ce qui fait l'ensemble de ce que Dieu nous demande par rapport à nos corps. Alors, les 7 vérités, on va les reviser très rapidement, pour qu'ensuite on puisse commencer à regarder les groupes de versets que le Seigneur nous donne par rapport à l'utilisation de notre corps. La première vérité, c'était qu'on a un bon corps. Dans le courant de l'histoire chrétienne, l'Église catholique de façon particulière, certains avaient une conviction que le corps est mauvais, ils se fouettaient, toutes sortes de choses comme ça. Alors, le corps, d'après les Écritures, d'après la Genèse, c'est un corps que Dieu nous a donné qui est bon en soi. Alors, en créant l'homme à son image, Dieu confirme que notre corps est bon. Il a de la valeur et de la dignité. Et l'intention divine était que notre corps et notre âme ne devaient pas se séparer. Il avait créé, si l'homme n'aurait pas chuté, l'âme et le corps étaient réunis, ils auraient toujours resté réunis. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dissociés? C'est le péché, la chute. Alors, la deuxième vérité, c'est qu'on a un corps déchu à cause, justement, de la chute d'Adam et Ève. Nous, on hérite d'un corps déchu. Alors, la chute d'Adam et Ève a produit des résultats désastreux, des anomalies, des anormalités physiques. On le sait, on en voit partout autour de nous autres. Des maladies et la mort elle-même. Alors, ces résultats-là qui se font suite à la chute, vont demeurer jusqu'à la fin. Alors ça, c'est bien, bien important de se rappeler toutes ces 7 choses-là avant de commencer à regarder les versets. La troisième, c'est qu'on a un corps subordonné. Subordonné, ça veut tout simplement dire qu'on se doit d'accorder la priorité à l'âme sur le corps. L'âme est plus importante que le corps. Ça ne veut pas dire que le corps n'a pas d'importance et qu'on ne devrait pas en tenir compte, qu'on ne devrait pas lui donner tous les soins qu'il a besoin. Mais quand on regarde la priorité, un corps subordonné, ça veut dire que l'âme est plus importante que le corps. Quatrième, c'est qu'on a un corps, on se devrait d'avoir un corps en santé pour avoir une vie longue et une vie... Alors, on doit tout faire pour s'en aller dans cette direction-là. Et quand on regarde nos vies en détail, des fois, on se rend compte qu'on n'a pas toujours les soins avec notre corps que Dieu nous demande. Alors, on pêche quand on fait ça. Alors, on est responsable. Dieu va nous demander des comptes de la façon dont nous avons utilisé notre corps par rapport à ce qu'il nous commande dans les Écritures. Cinquième, un corps affligé, c'est tout simplement pour nous rappeler que le Seigneur, parfois dans sa souveraineté, impose une maladie ou un jugement à des personnes à cause de certains péchés. Il le fait pour plusieurs raisons, comme on a vu dans nos leçons précédentes. Par exemple, avec Paul, il lui a mis un écharpe dans la chair, un démon pour le souffleter, et la raison, c'était pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et il y en a d'autres, par exemple, le repas du Seigneur, qui l'avait pris indignement. Le Seigneur dit que certains ont eu des infirmités, des maladies ou même la mort. Alors, dans sa souveraineté, Dieu se réserve le droit d'affliger les êtres humains pour toutes sortes de raisons sages que lui connaît et qui ne nous sont pas toujours révélées. Et le sixième, c'est un corps châtié. Donc, un corps châtié, ça veut dire que le Seigneur, parfois, qu'est-ce qu'on vit dans notre corps? Souvent, c'est un châtiment pour notre péché, et il le fait pour des effets de prévention, ou pour il l'utilise aussi comme un instrument de sanctification qui est ordonné par Dieu, comme dans le cas de Paul qu'on a parlé. Et le septième, c'était un corps abusé, encore à cause du péché, la mauvaise santé, les maladies physiques chroniques et la mort prématurée sont souvent le résultat d'une... Ça, c'est bien important là, de mesurer nos mots aussi. Le résultat d'une ignorance délibérée. Souvent, si on est malade, c'est parce qu'on ignore des choses. Une ignorance délibérée, ça veut dire que tu fais exprès. Tu fais exprès pour ignorer des choses que Dieu te révèle, mais tu le fais pareil. Donc, le résultat d'une ignorance délibérée, d'une indifférence sensible. Dieu nous informe de plusieurs principes concernant les soins qu'on se devrait donner à notre corps dans la Bible. Une indifférence sensible, ça veut dire que même si on ne le fait pas. Et d'une imprudence inconsidérée, ça veut dire qu'après qu'on a acquis certaines connaissances sur certains sujets par rapport à notre corps, le fait de ne pas le faire, les péchés d'omission, c'est un péché aussi, et aussi une grave négligence. On le sait, les êtres humains en général, dans la première leçon, ceux qui étaient là, on avait vu l'état actuel de la santé des Canadiens et aussi des Américains. Dans cette leçon-là, il y a aussi des statistiques sur les États-Unis, c'est encore pire ici. Alors vraiment, là, quand on pense que toutes ces choses-là qui se vivent dans la société canadienne et dans la société américaine, que ça ne nous influence pas dans nos comportements, on se trompe. Ça nous influence, et beaucoup plus qu'on pense. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les 8 perles ou groupes de versets, lui appelle des perles. Donc, une perle, c'est un groupe de versets qui nous donne des commandements du Seigneur par rapport à l'utilisation de notre corps. Le but est double. Premièrement, c'est de nous faire prendre conscience qu'on a des devoirs dans l'administration de notre corps qui ne nous appartient pas. On est porté à dire des fois, « Ah ben, il faut bien en faire ce que je veux, ce corps-là, c'est à moi. » Non, il n'est pas à toi. Il est au Seigneur. Puis tu vas avoir des comptes à lui rendre face à ça. Donc, le premier but de regarder toutes ces perles-là, c'est de prendre conscience qu'on est des intendants. Un intendant, c'est que Dieu t'a donné, il t'a confié quelque chose et il va te demander des comptes face à ce qu'il t'a confié. Donc, prendre conscience. Le deuxième, c'est... on se doit de fournir un effort soutenu pour accomplir notre responsabilité morale envers notre corps. Donc, à quelque part, on pourrait entendre une centaine de sermons sur la manière dont Dieu nous dit de traiter notre corps, mais si on ne le met pas en pratique, c'est comme ça vaut zéro. Alors, si vraiment on a une responsabilité, après que le Seigneur nous informe de certaines choses face à nos devoirs envers notre corps, si on ne le fait pas, c'est vraiment un très, très grave péché. On a une responsabilité morale. Et un des versets que l'auteur utilise pour nous rappeler ça, c'est vraiment Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Voyez-vous, quand vous regardez le verset 1, il commence par le corps. Pourquoi il commence par le corps? Il veut qu'on offre notre corps à Dieu parce qu'il lui appartient. Et étant maintenant régénéré, on serait censé l'utiliser uniquement pour faire du bien. Pas toujours ça qu'on fait. Et autre chose à se souvenir, c'est que si on connaît la volonté de Dieu, c'est ce qu'on est en train de faire, là. On va réviser de plus en plus ce que Dieu dit. Ne pas accomplir ce qu'on sait, ça c'est péché. Parce que ça dit dans Jacques 4, verset 17, « Celui-là donc pêche, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Alors, on va regarder ce soir la première perle qui est une supplication apostolique. Autrement dit, apostolique, ça veut dire que c'est un apôtre qui l'a fait, cette supplication-là. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 3 Jean, c'est-à-dire chapitre 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. » Alors, si on fait une lecture rapide des 8 premiers versets de cette belle épître de Jean, ça nous donne des indications sur le caractère et le ministère de Gaius à qui la lettre est adressée. Quand vous lisez 3 Jean, vous voyez que la lettre est adressée à Gaius. Alors, on parle d'un homme. Et il le décrit comme étant un chrétien qui marche droit dans le Seigneur, qui persévère dans la vérité et qui est constamment engagé dans des gestes d'amour envers les frères et spécialement envers les prédicateurs itinérants. À cette époque-là, quand on regarde la carte, quand Paul se promenait dans toutes les églises qui étaient fondées, c'était loin, là. Puis c'était pas des voyages en avion puis en autobus comme aujourd'hui. C'était vraiment... Alors, c'était important qu'il y ait des gens dans les églises qui étaient des hospitaliers, qui recevaient les gens, qui les faisaient coucher chez eux, qui les nourrissaient durant le temps qu'ils allaient les... Alors, quand il dit « Je veux que tu prospères », il savait que c'était un homme qui prenait à cœur le ministère de l'Évangile, et pour lui, c'était important que son corps soit en état de santé pour qu'il continue à faire le travail qu'il faisait, parce que c'était extrêmement important. Alors, l'apôtre Jean commence sa lettre en lui exprimant qu'il désire et qu'il prie pour que le Seigneur lui donne de continuer à progresser dans la foi. Notons qu'il exprime que ses progrès se fassent sur deux plans, le physique et le spirituel. L'apôtre reconnaît que le ministère très important de Gaius, qui est de favoriser que l'Évangile se répande abondamment, dépend de sa santé physique. Pas pour rien qu'il dit « je veux que tu sois en santé ». C'est parce que pour lui, la santé, là, ça faisait en sorte que les prédicateurs itinérants continuaient d'aller et que lui, ça faisait une continuité. Pas pour rien que Jean priait pour que Gaius ait une super de bonne santé, pour qu'il puisse continuer à faire son ministère d'hospitalité. Alors, prendre conscience de l'importance de sa santé pour l'avancement du royaume implique d'agir concrètement pour obtenir ce que l'on désire. Si on désire avoir une bonne santé, puis on sait qu'on fait des choses qui vont à l'encontre des principes d'une bonne santé, on se doit de les corriger. Alors, le psaume 27, verset 4, la première partie du verset 4, ça dit « J'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai. » Alors, la rechercher, ça veut dire quand on sait qu'est-ce que Dieu nous commande, et il faut rechercher ce qu'il nous commande de faire. Et donc, à quelque part, la première perle, c'est une supplication apostolique, première perle, les versets qu'on a mentionnés, pour nous mentionner que c'est important, que c'est une supplication de prendre soin de notre corps parce que celui-ci sert à l'avancement du royaume de Dieu et au maintien du royaume de Dieu. Alors, si on n'en prend pas compte, on n'en tient pas compte, on va tomber malade. Si on tombe malade, on n'est plus efficace, puis on ne fait plus ce qu'on devrait faire, et ça a un impact sur l'ensemble de ce qui se passe sur la terre. La deuxième perle, c'est une exhortation apostolique. Alors, on revient encore avec Romains 12, qu'on a lu tantôt. On ne le relira pas. C'est simplement une exhortation. C'est Paul. Il faut se rappeler un petit peu tout l'ensemble du... Quand on lit le Romain, c'est important de regarder dans quel endroit, à quel endroit où il place cette exhortation-là. Il le place dans le chapitre 11, au début du chapitre 12. Donc, dans les chapitres 1 à 11... du livre de Romains, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne un déploiement panoramique à couper le souffle des miséricordes de Dieu envers des pécheurs qui n'auraient mérité que l'enfer. Si vous prenez l'ensemble de Romains, Vous allez voir que Dieu a fait des miséricordes aux Juifs, Dieu a fait des miséricordes à plein de monde, et c'est vraiment une vision panoramique. Après avoir tout regardé ça, la première chose qu'il dit, donnez vos corps à Dieu, comme instrument de justice. Alors, ces miséricordes-là, bien entendu, sont basées sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et ces miséricordes-là sont appliquées à chaque croyant repentant par le ministère du Saint-Esprit. On le sait, on est venu au Seigneur par la régénération. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné ça. Et il nous évite d'aller en enfer si on prenait le moindrement conscience de ce qu'il nous a évité. On ne voudrait que ça servir. Ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, quand on est chrétien, on entend des versets, on les entend répéter. Des fois, ça vient que ça... On dirait que les versets, ils usent. Non, ils usent pas. C'est nous qui fermons nos oreilles à ce que Dieu dit. Alors, après avoir mis devant nous ce panorama de la grâce divine, il semble que Paul anticipe une réaction de ses lecteurs qui pourrait s'exprimer ainsi. Paul, à la lumière de ce que tu viens de nous rappeler sur la grâce de Dieu, comment moi, un pécheur qui aurait mérité l'enfer et qui en a été libéré, dois-je répondre à un tel amour du Seigneur? La réponse à cette question constitue la deuxième perle que l'on doit enfiler sur le cordon à sept brins. Notons que le verset ne dit pas de présenter nos cœurs à Dieu, mais bien nos corps, nos yeux, nos oreilles, notre langue, nos mains, nos pieds et tous les membres de notre corps. Paul fait cela de façon délibérée et consciente. Il veut que nous sachions que notre corps aussi participe au combat, au service et à la sanctification de nos êtres. Nous aurions possiblement été tentés d'exclure celui-ci. Autrement dit, on aurait été tenté d'exclure notre corps de ça et de dire, bon, la sanctification, ça se fait juste dans la tête, ça se fait juste dans le cœur, ça se fait juste dans l'être intérieur. Il veut que tu comprennes que ça se fait avec tout l'être au complet. Alors, bien entendu, il n'est pas possible de présenter nos corps à Dieu sans que notre vie intérieure soit l'engagement de notre volonté, de notre cœur et de notre âme soit aussi engagé. Autrement dit, tu es en train de dire que si on est vraiment régénéré, qu'on comprend ce que Dieu nous a fait, ça va avoir un effet sur la façon dont on va se comporter avec notre corps aussi. Alors Dieu veut rappeler ses lecteurs, Paul, c'est-à-dire veut rappeler ses lecteurs, que nous vivons dans un monde, dans le monde, et que les Écritures nous informent que ce monde est sous son contrôle, le contrôle du malin, mais non pas de façon absolue, mais qui est subordonnée à la volonté souveraine du Seigneur. Autrement dit, les Écritures nous apprennent que le monde entier, 1 Jean 5,19, je vais vous lire quelques versions, c'est intéressant de lire les versions différentes de la manière qu'ils formulent ça. Si on prend Sterval, 1 Jean 5,19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. » Si on regarde Darby, il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu » et que le monde entier gît dans le méchant. Voyez-vous, il y en a un qui insiste sur le principe du mal, l'autre insiste sur le fait qu'on est sous la domination du malin, du méchant. Dans la seconde 21, ça dit « nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal ». Alors, c'est vraiment l'idée qu'il faut prendre conscience qu'on vit dans une société qui est dominée par le malin, et que tout ce qu'on vit, qu'on mange, qu'on écoute, est dominé par cela. Si on ne prend pas conscience de cela, quelque part, ça nous fait faire des... Et la New King James, en anglais, je trouve ça intéressant, parce que lui, il dit d'une façon différente, « We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. » Alors, il met vraiment l'accent sur le fait qu'on vit dans une société... On est dominé par le malin qui domine la terre, mais pas de façon absolue. Il ne faut pas non plus oublier ça. C'est que Dieu est au-dessus et qu'il permet certaines choses que le malin fait sur la terre, mais qu'il a quand même le contrôle de façon définitive. Alors, l'idée principale de ces versets-là est que le monde est dominé et sous l'influence du malais. Alors, bien entendu, ça se reflète dans la nourriture, ça se reflète dans tout. Alors, nous pouvons résister avec nos corps à l'influence du malin qui cherche à nous modeler aux valeurs du monde et aux actions impies du monde. Quand on parlait tantôt de la situation de la santé au Canada, il voudrait emmener tout le monde à tomber dans cette déchéance-là. Parce que c'est autour de nous. Puis aux États-Unis, c'est encore pire. Il y a des États, là, je me souviens d'avoir déjà entendu à la télévision des reportages sur l'État du Texas, par exemple, où c'est épouvantable comment les gens sont rendus. Le manque de respect envers leur corps, les gens sont rendus. Et ça s'en vient. Avant, c'était des adultes. Mais là, quand on lit les rapports ou qu'on entend des reportages, on voit que les enfants, ils ont 8 ans, ils ont 10 ans, puis ils sont déjà dans des situations au point de vue... Ils ont 10 ans, puis ils ont déjà des maladies que normalement, on aurait dû avoir à 40 ou à 50 ans. Alors, ça va pas bien. Puis de penser que ces choses-là sont autour de nous, que ça ne nous influence pas, alors, oublions ça, les amis. Alors, la question suivante vient alors à notre esprit. Comment peut-on concrètement obéir à ce qui nous est demandé dans ces deux versets-là? La réponse est que nous devons sérieusement, non pas de façon obsessive ou fanatique, parce que là, on peut tomber encore là dans le fanatisme, là, dans le soin de nos corps. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance où il y en a qui ils donnent trop de soins à leur corps. Alors, de façon obsessive ou fanatique, nous préoccuper des questions comme la nutrition. C'est bien connu en Amérique du Nord, consultez n'importe quel nutritionniste, il va vous dire, on mange trop, on mange mal. Si on le sait, puis qu'on ne fait rien, on pêche. Donc, notre nutrition, l'exercice, combien de personnes ne font pas d'exercice? Le repos, combien de personnes abusent de toutes leurs activités ou du travail pour... Ils deviennent tellement fatigués qu'ils abusent de leur corps. La forme cardiovasculaire, parce que justement, combien de personnes ont des problèmes cardiovasculaires? Aussi, atteindre et maintenir un poids corporel en santé. Il y a de plus en plus de statistiques canadiennes, américaines, mondiales, qui nous parlent que quand on a du surpoids, que ça l'amène toutes sortes de maladies. On le sait. Pas parce qu'on ne le sait pas, des fois on le sait, on entend tellement parler. Mais comment ça se fait qu'on n'agit pas? C'est ça la grande question. On a des connaissances, mais on n'en a pas assez. Et on a la grande faiblesse de tomber dans les abus que l'on voit se produire autour de nous, à tour de bras. Puis on a la tendance à faire pareil. Autrement dit, l'idée, c'est un petit peu tout le monde le fait, fais le don. C'est vrai que c'est ça. Donc, le but de ces choses-là, de tout pratiquer, nutrition, exercice, repos, forme cardiovasculaire, atteinte et maintien d'un poids éternel, d'un poids corporel en santé, ça a le but, c'est de prévenir des maladies et de maintenir un corps fort pour une raison. Pas pour bien paraître, puis que les femmes te trouvent belle, que les hommes te trouvent beau, etc. Là. Le but, c'est de servir le Seigneur avec le corps qu'il nous a donné, le plus longtemps et le plus en forme qu'on peut. Et c'est pas toujours ça qu'on fait. Alors, en voulant obéir au verset, on se doit de garder en mémoire, de ne pas perdre de vue l'image des deux appuis-livres qu'on avait vu dans une des leçons précédentes. Vous souvenez-vous lesquels que c'était?
La justice.
C'était que on ne gagne pas quoi que ce soit en voulant faire... c'est la justice de Christ qui nous amène au ciel. C'est à cause de la justice de Christ qu'il a fait pour nous en subissant le châtiment que nous aurions dû subir, en subissant notre place, et en accomplissant à notre place la loi de Dieu. Donc, à quelque part, c'est pas parce qu'on va se mettre à bien manger, à faire de l'exercice, que c'est ça qui va nous donner notre ciel. Alors, le premier appui-livre, il ne faut pas l'oublier. C'est à cause de Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est que peu importe ce que tu vas faire pour essayer de te rendre dans la direction que les Écritures te disent, si tu essayes de le faire par toi-même, parce que tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, je change ça et je vais faire telle chose, tu vas faire un gros flop monumental, comme on dit au Québec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que le Saint-Esprit qui est capable de te donner la puissance, la force, la capacité nécessaire pour que tu puisses arriver à avoir des victoires dans tous ces domaines-là. Parce que si tu essaies de le faire toi-même, ça ne fera pas 3 semaines que tu vas t'essayer, que tu vas être dehors dans déchéance. C'est important de se souvenir de ces deux appuis-livres-là quand tu commences ton combat. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette semaine. On va avoir fait 2 perles. Et on va continuer l'étude je vais revenir aux alentours du 12 septembre. Je pense qu'on va continuer notre étude. On va continuer à la 3e perle.